Imaginez qu'exactement 100 bébés naissent dans le monde, à la seconde même où nous parlons. La répartition géographique de ces naissances, en fait, elle va probablement pulvériser la carte du monde qu'on a tous apprise à l'école.
Ah bah c'est clair, ça n'a plus rien à voir.
Voilà. Sur ces 100 nourrissants, il y en a 47 qui prennent leur premier souffle en Asie, 38 naissent en Afrique et seulement 15, je dis bien 15, voient le jour dans le reste du monde, Europe et Amérique du Nord comprises.
C'est un chiffre qui donne le vertige.
Complètement. Bon, décortiquons tout ça, parce que cette statistique, c'est pas juste une curiosité démographique pour briller en société. C'est vraiment le moteur d'un basculement géopolitique total.
Absolument. Et c'est là que notre plongée du jour prend tout son sens.
Ouais. Aujourd'hui, notre analyse s'appuie sur une édition hyper dense du grand journal de Radio Tam Tam Africa, une édition datée du 18 mars 2026. Et l'objectif ici, c'est pas de faire une simple revue de presse. En analysant ce bulletin qui dure à peine 10 minutes, on observe, en temps réel, le centre de gravité de la planète changer de continent.
Ce chiffre des naissances, en fait, il pose le cadre parfait pour démarrer. Parce que, pendant des décennies, les relations internationales, elles ont été lues à travers un prisme très occidental.
Avec ce fameux clivage nord-sud, quoi.
C'est ça, un clivage hérité d'une autre époque. Et ce que cette source met vraiment en lumière, c'est la fin de cette illusion de permanence. On entre de plein pied dans l'ère de ce que le journal appelle le multilatéralisme pragmatique.
Le multilatéralisme pragmatique, c'est un grand mot, ça.
Ouais, ça sonne très technique, mais l'idée est simple. Les États, bah, ils se contentent plus de suivre des blocs idéologiques tout tracés. Ils redessinent leurs alliances, ils reprennent le contrôle de leurs infrastructures critiques, et surtout, ils exigent de peser dans l'économie globale en fonction de leur vrai poids démographique.
Mais justement, pour comprendre comment ce poids démographique se traduit en pouvoir réel, faut d'abord regarder comment ces États reprennent, très physiquement, les clés de leur souveraineté.
Et c'est là que le premier dossier du journal est fascinant.
Oui, on part au Gabon. Le journal rapporte une décision du président Brice Clotaire Oligui Nguema qui touche vraiment au cœur nucléaire du pouvoir, le SILAM. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas, le SILAM, c'est le système d'écoute présidentiel. Et le truc fou, c'est que pendant 13 ans, cette infrastructure ultra sensible, elle était gérée par un expert français, un certain Jean-Charles Solon.
13 ans, c'est une éternité dans le domaine du renseignement.
Bah oui.
Et là, aujourd'hui, on le remercie gentiment et on le remplace par un général gabonais, Bernard Nyaman Koula.
Ce qui est fascinant ici, c'est qu'il faut bien comprendre la mécanique d'un système comme le SILAM. C'est pas juste un standard téléphonique où on écoute aux portes, hein.
Non, j'imagine bien.
C'est littéralement le système nerveux central du renseignement d'un État. Ça permet d'intercepter les communications, de surveiller les menaces intérieures comme extérieures, de protéger les secrets industriels.
Les secrets diplomatiques aussi, bien sûr. Et donc, qu'un ressortissant étranger ait pu superviser ça pendant plus d'une décennie, ça montre à quel point les liens post-coloniaux étaient incrustés dans l'architecture même de la sécurité d'État.
C'est comme donner les clés de son coffre-fort à son voisin, quoi.
Exactement. Le remplacer par un officier national, c'est pas une simple réorganisation des ressources humaines. C'est vraiment colmater une faille de vulnérabilité structurelle énorme.
Alors attendez, je veux bien faire l'avocat du diable une seconde.
Allez-y.
Le journal mentionne aussi que Libreville en profite pour diversifier ses alliances stratégiques. Il se rapproche notamment des Émirats Arabes Unis, tout en maintenant des liens avec la France. Du coup, est-ce que ce fameux multilatéralisme pragmatique, c'est pas juste une formule diplomatique très polie pour dire qu'on change de propriétaire?
Ah.
Je veux dire, c'est comme si un pays décidait de changer les serrures de sa propre maison, mais pour donner le double des clés à un autre voisin. Est-ce qu'on est vraiment plus souverain?
C'est une critique hyper légitime, oui, mais la nuance technique est cruciale ici. Aujourd'hui, la vraie souveraineté, c'est pas l'autarcie complète.
Vous voulez dire qu'on peut pas tout faire tout seul?
Voilà. Aucun pays ne fabrique 100% de ses technologies de pointe en vase clos. La stratégie gabonaise ici, c'est la dilution du risque. En fait, si vous dépendez d'un seul partenaire pour votre sécurité ou vos infrastructures, bah ce partenaire a un droit de veto de facto sur votre politique intérieure.
Parce qu'il peut couper le courant quand il veut.
Exactement. En invitant les FEMIRA ou d'autres à la table, Libreville crée une compétition. Les partenaires deviennent, eux, interchangeables. Ce n'est plus une relation de dépendance. Ça devient une relation client-fournisseur, beaucoup plus transactionnelle. Au final, l'État garde la main sur l'interrupteur principal.
D'accord, je vois bien le mécanisme. On reprend le contrôle de l'infrastructure moderne, de l'oreille de l'État, en quelque sorte. Mais ce qui me frappe dans cette édition du Grand Journal, c'est que cette réappropriation, elle n'est pas seulement technologique.
Non, elle est aussi culturelle.
Ouais, elle est profondément psychologique même. À quelques milliers de kilomètres de là, en Côte d'Ivoire, on assiste à un autre type de restitution. La France vient de rendre le tambour sacré Djigui Ayokwe.
8 ans de négociations pour cet objet.
8 ans? C'est dingue. On pourrait se dire, bon, c'est juste un instrument de musique qu'on remet dans un musée. Mais en écoutant l'analyse, on comprend vite que c'est beaucoup plus que ça. C'est littéralement la voix ancienne de la nation. C'est comme exiger qu'on rende les objets de famille volés dans le salon, tout en changeant les serrures de la maison dont on parlait tout à l'heure.
Le parallèle entre le système d'écoute et ce tambour est vraiment frappant. Le Djigui Ayokwe, c'était un outil de communication hyper puissant. Un symbole de pouvoir, un symbole de justice pour le peuple ébrié qui a été confisqué pendant la période coloniale.
Donc le récupérer, c'est un acte très fort.
Restituer cet objet, c'est carrément réparer une fracture dans la continuité historique du pays. Parce qu'une nation, ça se construit pas seulement avec des serveurs informatiques et des traités militaires.
Font un récit commun.
Voilà. Elles tiennent par son récit national. Quand un État exige et obtient le retour de son patrimoine sacré, le message interne est limpide. L'époque où notre histoire s'écrivait dans les capitales étrangères, bah, c'est révolu.
Mais là où les choses se compliquent sévèrement, et le journal fait très bien la transition, c'est que toute cette reconquête, qu'elle soit technologique, narrative ou symbolique, elle finit toujours par se heurter au mur de la réalité comptable.
Ah, l'épreuve des chiffres.
Exactement. On quitte les discours majestueux pour atterrir violemment dans les tableurs de la finance. Le bulletin nous emmène en République du Congo. L'État fait face à une dette de plus de 2000 milliards de francs CFA, qui arrive à échéance en 2026.
Une somme colossale.
Et parallèlement, dans la rubrique politique, on nous annonce la réélection du président Denis Sassou Nguesso au premier tour, avec plus de 94% des voix. Du coup, j'ai une question très directe.
Je vous écoute.
Face à un gouffre financier de 2000 milliards, est-ce qu'un score de 94%, c'est une armure en titane qui garantit la stabilité, ou bien c'est juste un vernis politique qui masque un effondrement imminent?
Alors, avec une impartialité stricte, en analysant les faits rapportés, je dirais que ce n'est ni l'un ni l'autre. Le danger ne vient pas de là où on l'attend.
C'est-à-dire?
Pour comprendre la fragilité de la situation, faut disséquer la nature même de cette dette. Le journal de Radio Tantam précise bien qu'il s'agit majoritairement d'une dette intérieure, une dette contractée via des obligations du Trésor.
Et quelle est la différence fondamentale avec une dette extérieure, pour bien comprendre?
C'est toute la clé de voûte du problème. Quand un pays a une dette extérieure énorme, il doit de l'argent au FMI, à la Banque mondiale, ou à des créanciers privés à New York ou Pékin. S'il fait défaut, il se coupe des marchés internationaux. C'est grave, oui, mais ça reste une crise géopolitique.
D'accord, alors qu'une dette intérieure?
Une dette intérieure, ça signifie que l'État a emprunté à ses propres banques commerciales. Il a emprunté à ses propres entreprises et indirectement à l'épargne de ses propres citoyens.
Ah ouais, le piège absolu.
Bah oui, parce que si l'État congolais ne peut pas rembourser ses fameux 2000 milliards de francs CFA, ce sont les banques locales qui font faillite. Les entreprises ne sont plus payées par l'État, donc elles licencient. En fait, le tissu économique domestique se nécrose de l'intérieur.
Donc, ce que vous dites, c'est que le score électoral de 94%, aussi massif soit-il, il ne vous protège absolument pas si les distributeurs de billets sont vides.
Exactement. La stabilité financière sans liquidité financière, bah, c'est un château de cartes. Et c'est pour ça que la gouvernance interne, la gestion pure, ça devient le test ultime de cette nouvelle ère de souveraineté.
Ça fait écho à une autre information du journal, d'ailleurs.
Oui, au Soudan du Sud.
C'est ça. Le président Salva Kiir qui fixe le cap pour des élections législatives en décembre 2026. Au début, on se demande pourquoi c'est si important de l'annoncer si tôt.
Mais en fait, si on relie ça à la perspective financière dont on vient de parler, ça prend tout son sens. Au-delà du rituel démocratique, annoncer un calendrier précis, c'est tenter de rassurer les marchés internes.
Rassurer les investisseurs locaux, surtout.
Absolument. C'est promettre un cadre prévisible. Sans prévisibilité, personne n'achète vos obligations du Trésor. Et donc, votre dette intérieure devient ingérable.
C'est fascinant de voir comment une élection au Soudan du Sud ou une réélection au Congo sont aussi intimement liées à la mécanique froide de la dette.
Tout est connecté. Sauf que cette stabilité interne, ce château de cartes congolais ou sud-soudanais, il flotte pas dans le vide. Il est soumis en permanence aux tempêtes géopolitiques mondiales. Et le principal régulateur de ces tempêtes, l'acteur invisible qui tire les ficelles dans l'ombre, c'est le pétrole.
Le pétrole reste le sang de la géopolitique contemporaine, ça c'est indéniable.
Ouais, et le grand journal de Radio Tom Tam nous offre une série de brèves internationales qui, à première vue, n'ont rien à voir les unes avec les autres. Mais quand on regarde bien, elles sont toutes connectées par l'or noir. C'est le fil rouge de l'actualité mondiale.
Regardez un peu cet enchaînement. On nous annonce que Donald Trump reporte sa visite en Chine à cause des tensions croissantes avec l'Iran. Au même moment, Emmanuel Macron confirme catégoriquement que la France n'interviendra pas dans le détroit d'Ormuz. Et en toile de fond, on apprend que la Russie renforce considérablement ses recettes budgétaires grâce à la hausse du baril.
C'est une véritable partie d'échecs.
Ou une partie de billard à trois bandes, je veux dire. Comment une tension dans le détroit d'Ormuz arrive-t-elle à dicter l'agenda de Washington, de Paris et de Moscou en même temps?
Parce que le détroit d'Ormuz, c'est vraiment le goulot d'étranglement par excellence de l'économie mondiale. Imaginez un passage maritime large d'à peine...
30 kilomètres, un truc comme ça?
Ouais, une trentaine de kilomètres à son point le plus étroit. Environ un cinquième de la consommation mondiale totale de pétrole transite par là chaque jour.
C'est une artère vitale, quoi.
Complètement. Dès qu'il y a une étincelle de tension entre les États-Unis et l'Iran dans cette zone hyper restreinte, les compagnies d'assurance maritime paniquent, leurs primes explosent et le prix du baril s'envole instantanément sur tous les marchés mondiaux.
Ce qui explique la réaction en chaîne sur les différents pays, la hausse du baril remplit automatiquement les caisses de l'État russe. Ils financent leur budget sans rien faire d'autre que de regarder la tension monter dans le Golfe.
Précisément. Ils n'ont qu'à récolter les fruits de l'instabilité. Et ça éclaire aussi parfaitement la décision d'Emmanuel Macron qui est détaillée dans le journal.
Ouais. Pourquoi la France choisit la non-intervention? Historiquement, ils ont une présence navale dans la région pourtant.
Parce qu'il ne s'agit pas du tout de pacifisme idéaliste ici. C'est du pur calcul économique. Envoyer des frégates pour faire une démonstration de force, ça risque de faire escalader le conflit. Et qui dit escalade dans le détroit d'Ormuz, dit baril à 120 ou 150 dollars.
Ah, et un baril à ce prix-là, c'est une inflation monstrueuse à la pompe quelques semaines plus tard.
Exactement. Le refus d'intervenir à l'international, souvent c'est dicté par la peur panique d'une crise sociale à domicile. C'est la mécanique implacable du marché de l'énergie. Les décisions diplomatiques sont prises avec un œil sur le prix de l'essence.
Ce qui rend le travail éditorial de cette source encore plus percutant, je trouve, c'est qu'au beau milieu de cette analyse très froide, très géostratégique sur le pétrole, le journal glisse un flashback historique.
Un anniversaire douloureux, oui.
Il y a 48 ans, le pétrolier Amoco Cadiz s'échouait sur les côtes bretonnes. 220 000 tonnes de pétrole brut déversées, 350 km de côtes ravagées. Le contraste temporel dans ce bulletin, il est d'une violence inouïe.
Cela soulève une question importante, effectivement.
D'un côté, on nous explique comment le pétrole finance des empires et fait plier des présidents aujourd'hui. Et de l'autre, on vient nous rappeler le coût écologique désastreux de cette dépendance.
C'est l'ironie stratégique ultime, en fait. L'Amoco Cadiz, c'est pas qu'un triste anniversaire. C'est un rappel brutal de la matérialité de cette ressource. On a tendance à parler de la géopolitique du pétrole comme si c'était une abstraction.
Des lignes de code sur des écrans de la bourse?
Voilà. Mais dans la réalité, c'est un hydrocarbure lourd, toxique, inflammable. Les mêmes superpuissances qui gonflent leur budget ou dictent des agendas diplomatiques, elles portent en elles le germe de catastrophes écologiques monumentales. C'est une vulnérabilité globale qui touche tout le monde, peu importe votre bord politique.
Et justement, si cette économie du pétrole, avec ses impasses écologiques et ses chantages géopolitiques, représente le monde d'hier et d'aujourd'hui, ça nous ramène de plein fouet à notre point de départ, à notre vertigineuse statistique de début d'émission.
Les naissances.
Ouais, parce que si on parle du monde demain, qui va le construire ce monde? Le vrai capital, la seule ressource qui va redessiner toutes les cartes, c'est l'humain.
Et là-dessus, les chiffres sont têtus. L'avenir démographique s'est définitivement déplacé.
Je repense à ces 85 bébés sur 100 qui naissent aujourd'hui en Afrique et en Asie. Alors, qu'est-ce que tout ça signifie quand on met tout bout à bout? Si on connecte ça aux problèmes de dette intérieure dont on parlait pour le Congo ou aux défis de souveraineté du Gabon, ça change totalement l'équation, non?
Ça la bouleverse. On ne peut pas résoudre le défi d'une population qui explose avec des petites mesures d'austérité classiques.
Il faut des infrastructures massives, des écoles, des emplois.
C'est ça. Et c'est là que la source nous offre une dernière image très intime, très forte, en provenance de Tanzanie.
Oui, la présidente tanzanienne, Samia Suluhu Hassan, qui a publiquement adopté un nourrisson abandonné. Avec ce message, je cite « Les enfants sont notre avenir ». Bon, certains esprits cyniques pourraient y voir un simple coup de communication politique.
Oui, bien sûr que l'image est millimétrée. Mais la qualifier juste de coup de com', ce serait vraiment passer à côté du message macroéconomique sous-jacent.
C'est-à-dire ?
Qu'est-ce que ce geste dit fondamentalement? Il dit que la priorité absolue de la gouvernance dans ces pays, ce n'est plus seulement de sécuriser les frontières ou de jongler avec la dette. C'est la gestion de ce tsunami démographique.
Parce que c'est une lame de fond inarrêtable.
Exactement. Si vous avez 38% de la main-d'œuvre mondiale de demain qui grandit sur votre continent, votre principal défi de sécurité nationale, c'est l'éducation, c'est la santé publique. Si vous échouez, cette jeunesse gigantesque devient une bombe à retardement de déstabilisation interne.
Mais si vous réussissez?
Si vous réussissez, c'est le levier d'une hyperpuissance économique. L'acte de la présidente tanzanienne, c'est vraiment l'incarnation d'un continent qui prend acte de sa responsabilité envers sa jeunesse. Tout prend son sens face à cette vague démographique.
C'est vraiment un changement de paradigme complet. On comprend mieux pourquoi le centre du monde se déplace si vite. Et c'est assez amusant, parce que le bulletin du grand journal se termine sur une séquence un peu inattendue. Une pensée du jour.
Une approche très philosophique pour clôturer un journal d'actualité.
Ouais, presque comme un manuel de développement personnel, mais appliqué à la politique. Il donne 3 clés pour prendre de bonnes décisions au quotidien. 1. Arrêter de consommer de l'information à l'excès. 2. Se fixer une échéance stricte. Et 3. Décider le matin. Au début, honnêtement, on se demande un peu ce que ça fait à la fin d'un journal géopolitique si dense.
Mais en y réfléchissant bien, c'est carrément le mode d'emploi de la souveraineté qu'on vient de décrire.
C'est clair. Mieux vaut une décision qu'une hésitation permanente.
Il y a un lien direct, en fait. L'infobésité, la paralysie par l'analyse, c'est le mal du siècle, pour les individus, mais aussi pour les gouvernements. Les États qui subissent les crises, ce sont ceux qui hésitent sans fin face à la complexité du monde, ceux qui attendent passivement que le prix du pétrole baisse ou que le FMI vienne les sauver.
Alors que ceux qui agissent?
Ceux qui reprennent le contrôle de leur destin, que ce soit en remplaçant un directeur de renseignement étranger, en fixant une date électorale ferme ou en exigeant le retour de leur patrimoine, ce sont ceux qui appliquent ces règles. Ils tranchent. Une décision souveraine, même imparfaite, vaudra toujours infiniment mieux que le statu quo de la dépendance.
Ce qui résonne particulièrement quand on voit le travail de médias indépendants comme Radio Tam Tam avec leur plateforme radiotamtam.org qui rappelle souvent que la parole est une force. C'est cette force qui permet justement de trier l'information, de comprendre ses mécanismes profonds pour pouvoir enfin décider.
Absolument. L'information brute sans contexte, c'est que du bruit. L'analyse des mécanismes qu'on a fait aujourd'hui, c'est ce qui transforme ce bruit en véritable capacité d'action.
Et cela nous laisse sur une ultime interrogation, une vraie piste de réflexion pour ceux qui nous écoutent et qui aiment creuser plus loin.
Je vous en prie.
On a vu aujourd'hui que les infrastructures de pouvoir, les dynamiques de la dette, les leviers énergétiques et surtout ce fameux rouleau compresseur démographique, tout bascule loin des vieux centres occidentaux.
Irréfutablement.
Donc si 85% des cerveaux, des travailleurs et des leaders de demain font en ce moment même leurs premiers pas dans les rues d'Asie et d'Afrique, une question brûlante émerge. Pendant encore combien de temps nos manuels, nos institutions économiques mondiales ou même certains de nos médias continueront-ils de qualifier d'actualité internationale ce qui n'est finalement vu qu'à travers le prisme d'une minorité de 15%? Le centre du monde a déjà déménagé. Reste à savoir quand nous aurons le courage d'imprimer les nouvelles cartes.